La chronique de Pierre-Yves McSween est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier.
Voici la chronique économique de Pierre-Yves McSween.
Bon, ben, fallait s'y attendre, Pierre-Yves. Le gouvernement du Québec a rapidement suivi, donné la main au gouvernement fédéral là, pour faire des modifications fiscales concernant le gain en capital.
Ah, pas juste ça. Hein. Le gouvernement s'est dit, bon, l'ingérence fédérale, c'est une chose. Mais quand l'ingérence fédérale ou les programmes fédéraux nous permettent de prendre des décisions sous le couvert de dire, ben, c'est le fédéral qui l'a fait, faut qu'on suive, le Québec est content. Tu comprends? Alors, le gain en capital, effectivement, devient imposable, comme au Canada, à partir de 250 000 par personne, à 66 % au lieu de 50, au fait, deux tiers. Et aussi, on met en place le fameux plafond pour les entrepreneurs, c'est-à-dire, pour compenser la mesure du gain en capital, on va permettre à des entrepreneurs, propriétaires actifs dans la compagnie, de gagner une espèce de plafond de 200 000 $ de gain en capital par année jusqu'à 10 ans pour 2 millions qui serait imposé à seulement 33 % au niveau du taux d'inclusion fois le taux d'impôt. Puis on va ajouter à ça, évidemment, que tous les entrepreneurs du Québec ou tous les propriétaires de compagnies privées qui répondent à certains critères peuvent maintenant exonérer une vente jusqu'à 1 250 000 de gains avec aucun impôt. Quand moi, Paul, j'étais à l'université, c'était presque la moitié de cette somme-là. Et maintenant, on est rendu, évidemment, à 1 250 000. Ça veut dire que t'es deux actionnaires. Tu vends une compagnie 2,5 millions de dollars, ben les deux actionnaires, s'ils ont juste mis 100 piastres, ne paieront pas d'impôt sur la vente. C'est quand même important comme montant total. Et je dois dire aussi que le gouvernement n'a pas le choix de suivre pour le rap. Tu peux pas d'un bord dire au fédéral, nous, le rap, vous pouvez retirer 60 000 sans impact fiscal avec remboursement, et au Québec dire, vous allez retirer jusqu'à 35 000, mais le reste va être imposable. Donc, ils n'ont pas eu le choix de suivre là-dessus non plus. Et donc, la conclusion, c'est même quand le fédéral ne fait pas d'ingérence officielle, le fédéral force la main aux provinces de prendre des décisions, et ici au Québec, on en a pris une, c'est-à-dire de suivre.
Je sais pas si c'est forcer la main, mais c'est probablement la compétence ou la juridiction où Ottawa et Québec sont en osmose.
T'as raison, hein?
Parce que, non, mais les taxes et les impôts, là, si quelqu'un, par exemple, je sais pas, mon Revenu Québec, te réclame de l'argent parce que, bon, il pense que t'as fraudé ou whatever, rapidement, l'info s'en va aussi au fédéral, là.
T'as raison. Maintenant, il y a une entente fédérale-provinciale depuis plusieurs années que quand un cotise, l'autre cotise. Des fois, t'appelles. J'ai déjà été cotisé en me faisant dire, ah, le fédéral vous a cotisé, on vous cotise, nous autres aussi. Mais vous comprenez-vous qu'ils ont pas raison? Ah, c'est pas grave, ils vous ont cotisé, on vous cotise. Donc ça, c'est vrai. Mais il y a des affaires bizarres, Paul. Je vais donner un exemple. Tu sais, le crédit d'impôt, par exemple, quand tu paies des cotisations syndicales. Provincial, t'as un crédit d'impôt. Au fédéral, c'est une déduction. Tu sais, on pourrait harmoniser des affaires simples, mais les affaires coûteuses sont les harmonies, évidemment.
Vous écoutez la chronique économique avec Pierre-Yves McSween.
Hydro-Québec et le Conseil des Mohawks qui a une entente qui a été conclue, là, historique, dit-on, elle est financière et politique.
On est loin de la crise d'Oka. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, la crise d'Oka me faisait faire un détour pour mon tournoi de soccer dans le coin de Châteauguay. Ça avait marqué l'imaginaire à l'époque. Et aujourd'hui, on est complètement ailleurs. Hydro-Québec a compris que, dans le fond, une entente, c'est pas juste une entente financière puis des apparences. C'est aussi une espèce de paix sociale, c'est une entente à long terme, c'est une assurance que le tracé va être le plus optimal possible pour le coût, le plus logique possible pour tout le monde. Et je voulais amener le point ce matin sur la co-entreprise, c'est-à-dire que Hydro-Québec et le Conseil des Mohawks signent une co-entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le fond, on donne pas des actions là ou des parts d'Hydro-Québec au Conseil des Mohawks, non, c'est qu'on crée une coquille, une entité temporaire ou long terme pour un projet. Donc, on a chacun un pourcentage de détention dans cette coentreprise-là en fonction des ressources qu'on amène et des ententes qu'on a. Et on a un partage des revenus et des coûts et des risques. Et donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est de dire, il y a deux nations qui partagent un territoire et qui se disent, regardez, on va arriver à une entente financière et logique et politique où les deux parties vont voir qu'à long terme, on va y gagner. Et je t'amènerai un parallèle avec Terre-Neuve. On a déjà fait une très bonne entente avec Terre-Neuve du côté québécois pour Churchill Falls, mais ça a miné les relations entre les deux provinces. Ici, ce qu'on est en train de démontrer, c'est que oui, ça coûte plus cher de tenter de partager des opérations, mais qu'à long terme, ça amène une paix sociale, des partenariats futurs, des ententes futures, et chaque entente comme ça, qui sera faite avec des territoires qui sont pas, disons, gérés par la province ou le gouvernement, permettra de donner des exemples pour les futurs développements. Donc ça, c'est un exemple, Paul, qui va peut-être nous permettre de développer d'autres projets hydroélectriques ailleurs ou d'autres lignes en démontrant qu'il peut y avoir des ententes locales avec des autorités locales.
Merci, monsieur.
Salut.
C'est 23.